La vie n'est pas un argument. Nous avons à prêter à notre usage un monde où nous puissions vivre, en admettant l'existence de corps, de lignes, de surfaces, de causes et d'effets, du mouvement et du repos, de la forme et de son contenu. Sans ces articles de foi, personne ne supporterait de vivre. Mais ce n'est pas là une preuve à l'appui de ces articles. La vie n'est pas un argument. Parmi les conditions de la vie pourrait se trouver l'erreur. Le scepticisme moral dans le christianisme. Le christianisme, lui aussi, a largement contribué à l'Aufklärung. Il a enseigné le scepticisme moral d'une façon très énergique et pénétrante. Accusateur abreuvant d'amertume, mais avec une patience et une subtilité infatigables. Il anéantit dans chaque individu la foi en sa vertu. Il fit disparaître à tout jamais de la terre ces grands vertueux qui abondaient dans l'Antiquité, ces hommes populaires qui se promenaient dans la foi en leur perfection avec une dignité de toréador. Si nous lisons maintenant, élevés comme nous le sommes dans cette école chrétienne du scepticisme, les livres de morale des anciens, par exemple Sénèque et Épictète, nous éprouvons une plaisante supériorité. Des vues et des compréhensions secrètes nous saisissent et nous croyons entendre parler un enfant devant un vieillard. Ou bien une jeune et belle enthousiaste devant La Rochefoucauld. Nous connaissons mieux ce qui s'appelle la vertu. Mais en fin de compte, nous avons appliqué aussi ce même scepticisme aux états d'âme et aux phénomènes religieux comme le péché, le repentir, la grâce, la sanctification. Et nous avons laissé ronger le ver si profondément que maintenant, à la lecture des livres chrétiens, nous éprouvons le même sentiment de fine supériorité et de connaissance de cause. Nous connaissons aussi mieux les sentiments religieux. Et il est temps de les bien connaître et de les bien décrire, car les croyants de l'ancienne foi tendent eux aussi à disparaître. Sauvons du moins leur image et leur type pour la connaissance. La connaissance est plus qu'un moyen. Même sans cette nouvelle passion, j'entends la passion de la connaissance, la science progresserait. Jusqu'à présent, elle s'est accrue et est devenue grande sans celle-ci. La bonne foi en la science, le préjugé en sa faveur dont nos États sont maintenant dominés, autrefois c'était même l'Église, repose au fond sur ce fait que, très rarement, ce penchant irrésistible s'est révélé en elle, et qu'en somme, la science n'est pas considérée comme une passion, mais bien plutôt comme une condition et un éthos. Oui, parfois suffit déjà l'amour-plaisir de la connaissance, curiosité. Il suffit de l'amour-vanité, de l'habitude de la science avec l'arrière-pensée d'honneur et de sécurité matérielle. Il suffit même, pour beaucoup, qu'ils ne sachent pas que faire du temps qu'ils ont à perdre et qu'ils l'emploient à lire, à collectionner, à classer, à observer, à raconter. Leur penchant scientifique n'est pas autre chose que de l'ennui. Le pape Léon X avait une fois chanté les louanges de la science, dans le bref Aberwald. Il l'a désignée comme le plus bel ornement et le plus grand orgueil de notre vie, comme une noble occupation dans le bonheur et dans le malheur. Sans elle, dit-il pour finir, toute entreprise humaine serait sans point d'appui. Et même avec elle, tout cela demeure bien assez changeant et incertain. Mais ce pape passablement sceptique fait comme tous les louangeurs ecclésiastiques son dernier jugement sur la science. On remarquera peut-être dans ses paroles qu'il place la science au-dessus de l'art, ce qui est assez singulier pour un ami de l'art, mais ce n'est en somme qu'une amabilité s'il ne parle pas de ce que, lui aussi, place bien au-dessus de la science, de la vérité révélée et de l'éternel salut de l'âme. Que lui sont à côté de cela les parures, les fiertés, les divertissements et les garanties de la vie. La science est une chose de deuxième rang. Ce n'est pas une chose dernière, absolue, un objet digne de la passion. Ce jugement resta au fond de l'âme du pape Léon. C'est le véritable jugement chrétien sur la science. Dans l'Antiquité, la dignité et la légitimité de la science en étaient tellement amoindries que, même parmi ses disciples les plus fervents, l'aspiration à la vertu se trouvait au premier rang, et que l'on croyait avoir décerné à la connaissance la plus haute louange en la glorifiant comme le meilleur chemin pour parvenir à la vertu. C'est une chose nouvelle dans l'histoire que la connaissance veuille être plus qu'un moyen. sur l'horizon de l'infini. Nous avons quitté la terre et sommes montés à bord. Nous avons brisé le pont qui était derrière nous. Et mieux encore, nous avons brisé la terre qui était derrière nous. Eh bien, petit navire, prends garde. À tes côtés, il y a l'océan. Il est vrai qu'il ne mugit pas toujours, et parfois sa nappe s'étend comme de la soie et de l'or, une rêverie de bonté. Mais il viendra des heures où tu reconnaîtras qu'il est l'infini, et qu'il n'y a rien de plus terrible que l'infini. Hélas, pauvre oiseau, toi qui t'es senti libre, tu te heurtes maintenant aux barreaux de cette cage. Malheur à toi si tu es saisi du mal du pays, comme s'il y avait eu là-bas plus de liberté. Et maintenant, il n'y a plus de terre. L'insensé. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui, en plein jour, allumait une lanterne et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu ! Je cherche Dieu !» Comme il se trouvait là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua une grande hilarité. « A-t-il donc été perdu ?» disait l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» demandait l'autre. « Ou bien s'est-il caché ? A-t-il peur de nous ? S'est-il embarqué ? A-t-il émigré ?» Ainsi criait et riait-il pêle-mêle. Le fou sauta au milieu d'eux et les transperça de son regard. « Où est allé Dieu ? » s'écria-t-il. « Je veux vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous, nous sommes ses assassins. » Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon? Qu'avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil? Où la conduisent maintenant ses mouvements? Où la conduisent nos mouvements? Loin de tous les soleils? Ne tombons-nous pas sans cesse? En avant, en arrière, de côté, de tous les côtés? Y a-t-il encore un en haut et un en bas? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini? Le vide ne nous poursuit-il pas de son haleine? Ne fait-il pas plus froid? Ne voyez-vous pas sans cesse venir la nuit? Plus de nuit? Ne faut-il pas allumer les lanternes avant midi? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui enterrent Dieu? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine? Les dieux, eux aussi, se décomposent. Dieu est mort! Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consolerons-nous, nous les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui effacera de nous ce sang? Avec quelle eau pourrons-nous nous purifier? Quelle expiation, quel jeu sacré serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, pour du moins paraître dignes des dieux? Il n'y eut jamais action plus grandiose, et ceux qui pourront naître après nous appartiendront, à cause de cette action, à une histoire plus haute que ne fut jamais toute histoire. Ici, l'insensé se tut et regarda de nouveau ses auditeurs. Eux aussi se turent et le dévisagèrent avec étonnement. Enfin, il jeta à terre sa lanterne, en sorte qu'elle se brisa en morceaux et s'éteignit. « Je viens trop tôt, dit-il alors. Mon temps n'est pas encore accompli. Cet événement énorme est encore en route. Il marche et n'est pas encore parvenu jusqu'à l'oreille des hommes. Il faut du temps à l'éclairer au tonnerre. Il faut du temps à la lumière des astres. Il faut du temps aux actions, même lorsqu'elles sont accomplies pour être vues et entendues. » Cet acte-là est encore plus loin d'eux que l'astre le plus éloigné. Et pourtant, c'est eux qui l'ont accompli. On raconte encore que ce fou aurait pénétré le même jour dans différentes églises et y aurait entonné son requiem aeternam deo. Expulsé et interrogé, il n'aurait cessé de répondre la même chose. À quoi servent donc ces églises si elles ne sont pas les tombes et les monuments de Dieu? Explication mystique. Les explications mystiques sont considérées comme profondes. En réalité, il s'en faut de beaucoup qu'elles soient même superficielles. Effet de la plus ancienne religiosité. L'homme y réfléchit se figure que seule la volonté est agissante. Vouloir serait selon lui quelque chose de simple, de prévu, d'indéductible, de compréhensible en soi. Il est convaincu, lorsqu'il fait quelque chose, par exemple lorsqu'il porte un coup, que c'est lui qui frappe, et qu'il frappe parce qu'il voulait frapper. Il ne remarque pas du tout qu'il y a là un problème, car la sensation de la volonté lui suffit, non seulement pour admettre la cause et les faits, mais encore pour croire qu'il comprend leur rapport. Il ne sait rien du mécanisme de l'action et du centuple travail subtil qui doit s'accomplir pour qu'il en arrive à frapper. De même, il ne sait rien de l'incapacité foncière de la volonté pour faire même la plus petite partie de ce travail. La volonté est pour lui une force qui agit de façon magique. Une foi en la volonté comme cause des faits est une foi en des forces agissant d'une façon magique. Or, primitivement, l'homme, partout où il voyait une action, imaginez une volonté comme cause, un être doué d'un vouloir personnel agissant à l'arrière-plan. L'idée de mécanique était bien loin de lui. Mais puisque l'homme, durant de longs espaces de temps, n'a cru qu'en des personnes, et non à des matières, des forces, des objets, etc., la croyance aux causes et aux effets est devenue pour lui croyance fondamentale, dont il se sert partout où quelque chose arrive. Et cela, aujourd'hui encore, instinctivement, comme une sorte d'atavisme d'origine ancienne. Les principes « pas d'effet sans cause », « chaque effet est une nouvelle cause » apparaissent comme des généralisations de principes au sens plus restreint. Où l'on a agi, on a voulu. On ne peut agir que sur des êtres voulants. Il n'y a pas de subissement pur et sans effet d'une cause. Tout subissement est une excitation de la volonté. De la volonté d'action, de défense, de vengeance, de représailles. Mais dans les temps primitifs de l'humanité, ces principes étaient identiques. Les premiers n'étaient pas les généralisations des seconds, mais les seconds des interprétations des premiers. Schopenhauer, avec sa supposition que tout ce qui est d'essence voulante, a élevé sur le trône une antique mythologie. Il ne semble jamais avoir tenté d'analyse de la volonté, puisqu'il croyait à la simplicité et à l'immédiateté du vouloir, comme tout le monde. Tandis que vouloir n'est qu'un mécanisme si bien mis en jeu qu'il échappe presque à l'œil observateur. En opposition avec Schopenhauer, je pense ces principes. Premièrement, pour qu'il y ait volonté, une représentation de plaisir et de déplaisir est nécessaire. En second lieu, qu'une violente irritation produise une sensation de plaisir ou de déplaisir, c'est affaire de l'intellect interprétateur. Une même irritation peut recevoir une interprétation de plaisir ou de déplaisir. En troisième lieu, il n'y a que chez les êtres intellectuels qu'il y a du plaisir, déplaisir et volonté. L'énorme majorité des organismes n'en éprouve rien. Valeur de la prière. La prière a été inventée pour les hommes qui, par eux-mêmes, n'ont jamais de pensée et qui ne connaissent pas ou laissent échapper sans s'en apercevoir l'élévation de l'âme. Que doivent faire ceux-ci dans les lieux saints et dans toutes les situations importantes de la vie qui exigent la tranquillité et une espèce de dignité? Pour que du moins ils ne gênent pas, la sagesse de tous les fondateurs de religion, des petits comme des grands, a recommandé la formule de la prière, tel un long travail mécanique des lèvres, allié à un effort de mémoire, avec une position uniformément déterminée des mains, des pieds et des yeux. Qu'ils ruminent donc, pareil aux habitants du Tibet, leur innombrable « Om Mani Padme Hum » ou qu'ils comptent sur leurs doigts comme à Bénarès, le nom du dieu Ram Ram Ram, et ainsi de suite, avec ou sans grâce. Ou qu'ils vénèrent Vishnu avec ses 1000, Allah avec ses 99 appellations, ou qu'ils se servent de moulins à prière ou de rosaire. L'essentiel, c'est qu'avec ce travail, ils soient immobilisés pendant un certain temps et offrent un aspect supportable. Leur façon de prier a été inventée à l'avantage des gens pieux qui connaissent les pensées et les exaltations puisées en eux-mêmes. Et ceux-ci même ont leurs heures de fatigue où une série de paroles et de sons vénérables et une mécanique pieuse leur font du bien. Mais en admettant que ces hommes rares, dans toutes les religions, l'homme religieux est une exception, sachent s'aider par eux-mêmes. Il reste que les pauvres d'esprit n'arrivent pas à se tirer d'affaire. Et que leur défendre de marmotter des prières, c'est leur prendre leur religion, comme le protestantisme réussit à le faire de plus en plus. La religion n'exige d'eux pas plus que de se tenir tranquille, avec les yeux, les mains, les jambes et toute espèce d'organes. De cette façon, ils sont momentanément embellis et rendus plus humains. Les conditions de Dieu. Dieu lui-même ne peut pas subsister sans les hommes sages, a dit Luther et à bon droit. Mais Dieu peut encore moins subsister sans les insensés. C'est ce que le bon Luther n'a pas dit. Une résolution dangereuse. La résolution chrétienne de trouver le monde laid et mauvais a rendu le monde laid et mauvais. Le christianisme et le suicide. Au temps de sa formation, le christianisme s'est servi de l'énorme désir de suicide pour en faire un levier de sa puissance. Il ne garda que deux formes de suicide, les revêtit des plus hautes dignités et des plus hauts espoirs, et défendut toutes les autres avec des menaces terribles. Mais le martyre et le lent anéantissement de l'ascétisme étaient permis. Contre le christianisme. Maintenant, c'est notre goût qui décide contre le christianisme. Ce ne sont plus nos arguments. Principe. Une hypothèse inévitable, à laquelle l'humanité sera toujours forcée de revenir, finit par être à la longue plus puissante que la foi la plus vivace en quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, la foi chrétienne. À la longue, cela veut dire sur un espace de 100 000 années. Les pessimistes comme victimes. Partout où un profond déplaisir de vivre prend le dessus, se manifestent les effets ultérieurs d'un grand écart de régime dont un peuple s'est longtemps rendu coupable. Ainsi, le développement du bouddhisme, non son origine, est dû en grande partie à l'abus d'une nourriture exclusivement composée de riz et à l'amollissement général qui en résulte. Peut-être le mécontentement des temps modernes en Europe vient-il de ce que nos ancêtres, à travers tout le Moyen-Âge, grâce à l'influence du goût germanique sur l'Europe, étaient adonnés à la boisson. Moyen-Âge, cela veut dire empoisonnement de l'Europe par l'alcool. Le pessimisme allemand est essentiellement de la langueur hivernale, sans oublier l'effet de l'air renfermé et du poison répandu par les poêles dans les habitations allemandes.